Transistor.
C'est la phase B.
Transistor.
Web.
C'était il y a 10 ans. Je n'ai plus quitté la France depuis. Trop affairé avec la ferme, trop ancré là où je me suis enfin posé. Depuis, je n'ai plus senti ni le besoin, ni le sens de nouveaux périples. À l'époque, la révolte qui enflammait les pays arabes, ce n'était ni la Tunisie, ni la Syrie, encore moins l'Égypte ou la Libye. La révolte dans le Moyen-Orient, c'était l'intifada en Palestine, la seconde. L'intifada Al-Aqsa, qui commence le 28 septembre 2000.
La première intifada, guerre des pierres, est le nom que l'on donne à un conflit opposant les territoires occupés de Palestine à Israël. La guerre, qui se déclenche notamment suite au meurtre d'un Israélien suivi de la mort de 4 Palestiniens écrasés par un camion au niveau d'un checkpoint, et l'attaque par des Palestiniens d'une position de la Tsahal, l'armée israélienne, fait selon les instituts européens environ 2200 morts, dont 2000 Palestiniens, entre 1987 et 1993. Les racines des intifadas sont beaucoup plus profondes que cet accident déclencheur. Occupation israélienne, dégradation des conditions de travail, autorisation de déplacement très difficile à obtenir, fouilles, humiliations, sont doublées par des désaccords politiques et religieux importants. Si bien que, même les accords d'Oslo signés en 1993, plaçant Yasser Arafat à la tête de la nouvelle autorité palestinienne, ne parviennent qu'à apaiser temporairement la situation, qui se dégrade à nouveau en septembre 2000, pour donner lieu à la seconde intifada qui, elle, durera 5 ans et fera plus de 4000 morts.
Au moment où elle éclate, j'aurais été totalement incapable de situer la Palestine sur une carte. Je me contrefoutais de la politique, et a fortiori, de ce conflit en berlificoté à propos duquel d'aucuns ne cessaient de s'empailler. En avril 2002, agacé par ces émeutes à répétition dans les territoires occupés, les Israéliens lancent une vaste offensive nommée Opération Rempart et occupent la Cisjordanie.
Devant le château de Versailles, et une fois de plus, ce sont les CRS, ce sont les barrières qui empêchent le peuple de s'exprimer. L'impression qu'on a, c'est que 200 ans d'histoire n'ont servi à rien. Une fois de plus, quand on veut aller au château, eh bien on a en face de nous les forces de l'ordre. On a en face de nous un pouvoir qui refuse d'entendre le peuple.
Alors, même si on avait pu être plus nombreux, même si les débats avaient pu se construire dans la durée, eh bien on serait quand même là.
Aujourd'hui on est ici pour dire qu'on n'accepte pas de se faire confisquer ce débat. Alors que ceux qui sont réunis dans le château ne croient pas que cette manifestation sera la dernière. C'est pas une fin, c'est un début de mobilisation. C'est un début de mobilisation, comme on l'a fait en 2005, où on a été capable de renverser la logique qu'on essayait de nous imposer. On va continuer ce combat.
Trickster and seductress, oui. Tap dancing on minefield every day. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do night flows, secretly with blows. Oh,
pendant cet intervalle, le mouvement anti-mondialisation avait aiguisé en moi un début de sensibilité à la chose politique. De quoi me faire réagir aux images de Ramallah occupée, des corps de ruines, au milieu duquel José Bové et le gratin des anti-mondialistes brisent pacifiquement le blocus militaire israélien et pénètrent dans la Mokata, le QG assiégé de Yasser Arafat. Ils y apportent des vivres, des médicaments, et se proposent de rester comme boucliers humains. Tsahal, dans un premier temps, ne réagit pas. Puis, après quelques jours, finit par desserrer l'étau sur le bâtiment de l'autorité palestinienne. Une somme incalculable de commentaires se déverse alors. Des délires militants sur cette victoire majeure de la société civile, jusqu'aux critiques acerbes concernant cette alliance puante avec le dirigeant Arafat. Mais passons. Moi, je ne comprenais toujours rien à ce qui se passait exactement là-bas. Les différences entre le Fatah et le Front pour la libération de la Palestine, la question du droit au retour, de la colonisation, etc. Ce que je savais, c'est que ce type de coup de force, cette victoire sur le terrain des petits contre les géants surarmés, correspondait à l'image de ma révolte. D'un seul coup, quelque chose, comme un geste qui rétablit un peu de justice dans le monde, était à portée de main.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Be that man.
Depuis, j'ai beaucoup critiqué le spectacle et ses affres, la starification à outrance, mais je ne peux que constater qu'à ce moment-là, l'image de révolte qu'on me vendait littéralement me fit bouger. Jusqu'à aller la confronter au réel et à en faire tout autre chose.
Like a film you've never seen, yet missing every single scene so bad. And roles we led. Like a song you never understand, yet you always wanna play again. Again and again.
J'avais un ami de l'université, Richard, la soixantaine, qui se passionnait pour les anarchistes primitivistes. L'image médiatique l'avait frappé, lui aussi. Et plus familier que moi aux rouages militants, il s'était renseigné sur le réseau qui entourait Bové et sa clique. Leur groupe constituait la 11e mission de la campagne civile pour la protection du peuple palestinien. La machine militante ronronnait. Les groupes se succédaient sur place et faisaient ce qu'ils pouvaient. Et puis, soudain, ce coup énorme de la Mokata. Le buzz, dirait-on aujourd'hui. Les candidats au départ se multiplièrent, souvent dans une belle pagaille. Avec Richard, nous fûmes de cela. À peine 2 semaines plus tard, nous embarquions. Nous avions très peu d'idées de ce que nous allions trouver, et encore moins de ce que nous allions pouvoir faire. Mais la soif d'aventure l'emportait largement sur l'analyse politique ou la réflexion. Il semblait que, là-bas, s'ouvrait un espace où l'acte de révolte pouvait être journalier, un espace où le politique devenait évident, tant le conflit était vif et la plaie ouverte. Un paradis d'activistes, en somme. Où, pour une fois, l'identité occidentale n'était plus ce culpabilisant reflet du néocolonialisme, mais une arme, un moyen de pression sur le soldat lambda, embarrassé par les bruyants usagers de son checkpoint. Nous épousions la cause du faible de façon machinale. Je ne sais plus exactement comment nous présentions notre départ, mais il me semble que ce n'était pas sans une certaine dramatisation. On a les guerres qu'on peut. En même temps, notre aventure avait ce paradoxe de dépendre d'une curieuse agence de voyage, sans laquelle nous ne serions jamais partis. Peut-être eût-il mieux valu, au demeurant.
José Bové, j'aurais pu également vous demander dans l'interview au fromage au dessert si vous préfériez Harel Sharon ou Yasser Arafat.
Je pense que les choses sont claires. Il y en a un qui est victime d'une colonisation et l'autre qui est en train d'envahir un territoire qui ne lui appartient
absolument
pas. Donc je crois que les choses sont claires.
Le 2 avril, après votre retour de Ramallah en Palestine, vous avez été accusé d'antisémitisme pour avoir fait deux choses. D'abord, nazifier le comportement d'Israël en utilisant les mots « rafle », « camp d'internement », « mirador », qui rappelle effectivement la Shoah. Et deuxièmement, insinuer que le Mossad, les services secrets israéliens, mettaient des bombes devant les synagogues.
Le contexte, quand j'ai parlé de camp d'internement, j'ai parlé de ce que j'ai vu, c'est-à-dire de civils palestiniens qui étaient entourés de barbelés, avec effectivement des miradors, des hommes en armes et des projecteurs parce que c'était de nuit, et ces gens-là qui étaient là, d'autres centaines de Palestiniens de Ramallah, puisque c'était pas loin de Ramallah, qui étaient agenouillés, les mains attachées dans le dos, les yeux bandés, en train d'attendre d'être interrogés. Ça, je l'ai vu parce que je n'ai fait que décrire une situation, et j'ai employé justement des termes qui soient les plus neutres possibles. Je n'ai jamais employé de termes autres que cela, parce que ce sont ceux qu'on emploie dans tous les conflits.
En effet, légèrement échauffé par le coup de la Mokata, la sécurité israélienne avait fini par se pencher sur ces internationaux, se baladant et militant dans les territoires. Elle n'eut guère à se fatiguer, l'organisation de ses missions étant à l'époque totalement publique et transparente. Il lui suffit de quelques clics pour prendre connaissance de notre vol. Nous nous fîmes cueillir, comme des fleurs, à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, et jetés sans grand-peine dans le premier avion pour Paris. Mais là n'était pas le pire. Je dois dire que, avec le recul, la composition de notre groupe faisait autant frémir que la police des frontières israéliennes. Et je ne saurais dire combien d'entre nous prenaient agence de voyage au pied de la lettre. Le terme « tourisme militant » serait encore un euphémisme pour décrire ce que nous aurions pu vivre si on nous avait laissé passer. J'en venais presque à me dire que, non sans quelques rancœurs, nous évitions finalement bien des complications à nos futurs hôtes. Logiquement, aucune combativité collective ne vint se dresser contre notre expulsion. Suite à cela, la campagne civile pour la protection du peuple palestinien prit des mesures pour éviter de trop ébruiter les départs qu'elle organisait. Elle mit en place également des formations qui, malgré leur nom pompeux, ne pouvaient changer radicalement les habitus des candidats au départ. Et puis, avec le temps, les services de communication israéliens comprirent que l'effet Bové était à usage unique. Les expulsions se multipliaient, indignant régulièrement une opinion internationale complètement impuissante. Les actions directes de désobéissance devenaient chaque jour plus dangereuses. La mort, le 16 mars 2003, de Rachel Corrie, activiste américaine de l'ISM, écrasée par un bulldozer Caterpillar dont elle tentait d'arrêter la progression, confirmait le changement de situation. D'autres morts internationaux suivirent, dans une indifférence de plus en plus pesante. La désobéissance non violente montrait sa limite, face à la détermination de Tsahal, face à la réalité de la guerre. 7 ans plus tard, le 31 mai 2010, le raid des commandos israéliens sur la flottille pour Gaza se soldait par un bilan de 9 morts et 28 blessés. L'utilité, voire la possibilité, de ces voyages était sérieusement remise en question. La campagne civile pour la protection du peuple palestinien tenta de retomber sur ses pieds, en délaissant l'action directe, pour lui préférer les témoignages de retour. Arguant qu'on ne part finalement que pour revenir et militer ici avec la conviction et l'aura de celui qui a vu. Le voyage qui a fait découvrir la cause palestinienne à tant de participants ne devient alors qu'une étape anecdotique dans une solidarité sur le long terme avec la Palestine. Le côté sexy des combattants non violents avait fait long feu.
La mort de Rachel Khoury est un accident, en aucun cas un acte volontaire. Le tribunal israélien de Haïfa a rejeté ce mardi la plainte déposée par les parents de cette jeune pacifiste américaine tuée en 2003 par un bulldozer israélien. Elle manifestait alors avec d'autres civils contre la destruction d'une maison palestinienne dans la bande de Gaza. Selon les résultats de l'enquête, la jeune femme perturbait les opérations sur le terrain et elle n'a pas été écrasée mais ensevelie par la terre poussée par l'engin. Pour la famille, ce verdict est fondé sur des faits déformés. Elle entend faire appel.
We are, of course, deeply saddened.
Nous sommes bien sûr profondément tristes et troublés par ce que nous avons entendu de la part du juge Odette Gerson, explique la mère de Rachel Khoury. Je pense que c'était une mauvaise journée, non seulement pour une famille, mais aussi pour les droits humains, pour l'humanité, pour l'autorité de la loi et aussi pour l'État d'Israël. Des témoins continuent d'affirmer que le bulldozer a délibérément écrasé la jeune femme. Ils assurent que les manifestants étaient clairement visibles par le conducteur. Ce dernier n'a jamais été inquiété.
L'hiver suivant ce non-voyage, en 2002-2003, je tentais, malgré mon interdiction de territoire israélien, de former, avec quelques amis, une nouvelle mission pour repartir là-bas. Ce coup-ci, nous avions différents projets à réaliser et une compréhension bien plus documentée de ce qui se passait. L'été venu, pendant que le reste du groupe atterrissait à Tel Aviv, j'essayais de rejoindre la Palestine, seule, depuis la Jordanie. Au pire, cela m'évitait un retour direct pour Paris. Logiquement, la police aux frontières israéliennes n'était pas si amnésique que je cherchais à m'en persuader. Et les infos ne mirent guère de temps à transiter de l'aéroport Ben-Gourion jusqu'à Lucerne Bridge. Après une journée d'interrogatoire au poste frontière, je me retrouvais le bec dans l'eau du Jourdain. Pendant les jours suivants, je zonnais un peu, dépité, dans les camps de réfugiés d'Amam. Sur un des marchés de la ville, on offrait $200 pour conduire un pick-up General Motors jusqu'à Bagdad, où le régime de Saddam venait de tomber. La route se faisait de nuit, en convoi, à fond la caisse à travers le désert, pour éviter les embuscades des pillards. Au bout du voyage, j'avais pour tout contact le nom d'un gars de la campagne civile de protection du peuple palestinien, un Parisien que j'avais croisé une fois et qui logeait au Palestine Hotel. C'était une tour, entourée de checkpoints et de tanks états-uniens, d'où, au printemps, nos intrépides camarades journalistes avaient trouvé un point de vue imprenable sur l'entrée des troupes yankees dans la capitale. Elle portait encore la trace d'un obus, qu'il avait, par erreur, ébréché. La situation en Irak était encore extrêmement confuse. Des bombes explosées. Les règlements de compte côtoyaient les accidents liés aux nombreux coups de feu tirés en l'air. le collègue des missions civiles m'hébergea, quelque temps dans sa chambre. À cette occasion, j'appris énormément sur les turpitudes politiques du pays, chaque soirée étant l'occasion d'un cours accéléré de politique régionale. Il finit par partir. Non, sans m'avoir au préalable présenté une Américaine et une Norvégienne, parfaitement arabophones. Ces deux blondes aux yeux bleus passaient leur journée à répondre aux apostrophes désobligeantes des jeunes dans la rue. Grande gueule! Elles étaient en lien étroit avec un des camps de réfugiés palestiniens de la capitale, celui de Baladiat. Cruelle réalité de cette diaspora. On aurait pu faire le tour du Moyen-Orient en ne logeant que dans ce type de camp. Celui-ci regroupait des exilés d'Haïfa arrivés en Irak après la Nakba au début des années 50. Le régime de Saddam Hussein, panarabisme oblige, les avait accueillis en grande pompe et leur avait, entre autres, fourni des logements salubres en leur garantissant la stabilité des loyers. Plus d'un demi-siècle plus tard, à force d'inflation, les propriétaires de ces logements finissaient logiquement par se sentir floués de ces loyers modérés imposés. Perçus comme des profiteurs, voire comme des fervents partisans du régime, les Palestiniens n'avaient plus vraiment bonne presse depuis la chute de celui-ci. Les propriétaires, les armes à la main, n'eurent que peu de mal à récupérer leurs biens. Et les familles, à nouveau expulsées de chez elles, n'eurent plus d'autre endroit où aller que le stade de foot de l'équipe nationale palestinienne en exil, à Baladiat. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés prêtait des tentes et palliait le plus urgent. Camping par plus de 50 degrés, sans une once d'ombre. C'est là-bas que je me retrouvais avec mes deux amis. Nous voulions faire pression sur le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont les 4x4 flambant neufs ne passaient pas inaperçus dans la capitale, pour obtenir rapidement des relogements. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les trois à entamer une grève de la faim. Elle dura une semaine, le temps pour l'ONU, les consulats et les autorités irakiennes de se demander ce qu'on foutait là avec les nouveaux parias de la capitale. Interrogatoire, visite courtoise, menace d'expulsion. Je ne sais même plus quelle miette nous avons fini. Je ne sais même plus quelle miette nous avons finalement obtenue. Toujours est-il qu'après, je suis restée dans le camp, parce qu'à passer des journées entières avec des gens qui n'ont pas plus à faire que toi, tu discutes, tu bois le thé, tu t'attaches, tu deviens de la famille. Tous les jours, immanquablement, chaque tante visitait toutes les autres, buvait le thé, et moi, je faisais de même. J'ai accompagné jusqu'à Karbala, au sud-ouest de Bagdad. Une mère de famille dont le mari était mort à Beyrouth. Elle n'avait jamais vu le Liban. Pour ma part, j'y avais rencontré des membres de sa famille lors d'un précédent voyage, un an plus tôt. Cruelles inégalités face aux frontières. Et puis, un jour, il faut bien rentrer. les larmes, les promesses de rester en contact, d'une manière ou d'une autre. Tout cela finit forcément par ressembler à des adieux de vacanciers. De retour en France, on fait 2 ou 3 conférences, quelques articles. Mais, faute d'Amar, on ne peut maintenir le lien.